Emmanuel Ruben, vous n'êtes pas l'homme d'une passion unique. Dans votre panthéon figure en bonne place la littérature, on s'y attendait, mais aussi la géographie et le cyclisme. La liste est non exhaustive. Logiquement, dans vos bagages pour cette résidence d'écriture à la Tour d'Aigle, vous n'avez surtout pas oublié votre précieux vélo. Celui sur lequel vous avez parcouru d'Odessa à Strasbourg 4000 km en 48 jours, relaté dans « Sur la route du Danube ». Le livre dont vous proposerez une lecture musicale le 26 mai prochain à Pertuis. Dans les premières pages donc de ce livre, vous livrez l'une des clés pour découvrir votre œuvre. Je vous cite « Un bon vélo, comme un bon livre, doit servir à retrouver sa respiration ». Ou encore, je vous cite « Il n'y a jamais de ligne droite à vélo. Le cyclisme, comme l'écriture, n'est qu'une série de méandres ». Donc nous sommes prévenus. Plutôt que les lignes droites, vous préférez explorer les courbes des frontières et des chemins de traverse, les méandres des fleuves, l'enchevêtrement de récits mêlant la fiction, l'autobiographie et l'histoire. Vous vous qualifiez parfois de géographe défroqué. Agrégé de géo, vous l'avez étudié à l'École normale supérieure de Lyon ainsi qu'à l'Institut de géographie à Paris, puis enseigné en banlieue parisienne, avant d'être entraîné donc sur d'autres routes, celles du voyage et de l'écriture. Dans vos livres, à 42 ans, vous en avez déjà signé 12, vous poursuivez la cartographie intime de l'Europe, du nord au sud, de l'ouest à l'est, sans oublier, comme toujours, de vous attarder sur ses portes et ses frontières. En vélo, donc, hein, nous l'avons dit, mais aussi en prenant le train, comme dans Terminus Schengen, en suivant de Serbie en Allemagne le parcours entravé des migrants. Mais parfois aussi en remontant le temps à la découverte de votre histoire familiale, de ses secrets et ses légendes. Et c'est ce que font vos deux derniers romans. Sabre, donc l'avant-dernier, s'aventure du côté de la branche paternelle protestante de votre famille sur les traces d'un ancêtre au parcours aussi picaresque qu'incertain. Les méditerranéennes, dont il va être question aujourd'hui, plongent du côté de la branche maternelle juive dont le destin foisonnant se mêle pour le meilleur et pour le pire à celui de l'Algérie. Vous n'aimez pas, rappelons-le, les lignes droites. Dans Sabre, comme dans les méditerranéennes, vous n'êtes donc pas le narrateur ni le héros. Vous mettez en scène Samuel Vidouble, le bien nommé, votre double, qui est lui aussi professeur de géographie, écrivain, lui aussi né d'un goy et d'une juive. Dans les deux cas, la fiction et le réel, la saga familiale vécue ou fantasmée, ainsi que la grande histoire et ses tragédies se mêlent à un continent métissé de récits, continent européen bien entendu. À vos côtés ce soir, nous tenterons donc de trouver le bon rythme, on va essayer, en nous autorisant tous les détours nécessaires, sans perdre, espérons-le, notre souffle. Donc Emmanuel Ruben, bonsoir.
Bonsoir.
Peut-être un mot sur ce double, Samuel Vidouble, qui a déjà fait son apparition dans différents romans.
Oui, en tout cas, merci pour cette présentation, parce que c'était très, très, très complet, très, très émouvant.
Pourquoi passer par cette figure, ce Samuel Vidouble? Quel intérêt?
La liberté. En fait, je l'ai découvert récemment dans un livre de Philippe Roth qui s'appelle « L'effet autobiographie d'un romancier ». Vous le trouvez, ça vient de sortir en poche. Jusque-là, ça se trouvait pas en poche. Il tente d'écrire une autobiographie. Vous savez peut-être, pour ceux qui ont lu Philippe, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont lu Philippe Roth, il a un double qui revient souvent. Vous connaissez son nom sans doute, c'est Nathan Zuckerman. Il y a d'ailleurs d'autres doubles chez Philippe Roth, parce que même le premier livre qu'il a fait connaître, c'est aussi un double, Portnoy, et puis il va y avoir un autre double qui s'appelle Keplech, qu'on trouve dans d'autres livres. Mais bon, le principal double, c'est Nathan Zuckerman. Et il tente d'écrire une autobiographie et il l'adresse à son double, il l'adresse à Nathan Zuckerman. Et donc ça commence par « Cher Nathan Zuckerman », et puis bon, il raconte sa vie. Ça a l'air c'est assez troublant parce que c'est Philippe Roth qui raconte sa vie. Puis à la fin, il y a une réponse de Nathan Zuckerman. Le texte n'est pas très... Il y a peu de choses qui le mettent en valeur. On est un peu décontenancé. Et Nathan Zuckerman répond, cher Philippe Roth, et lui dit, voilà, tout ce que tu viens d'écrire, c'est nul, ça n'a aucun intérêt. Parce que je ne suis pas là. Parce que tu essayes de raconter ta vie, mais tu essayes de raconter ta vie sans moi. Or, en fait, si moi, je te dois la vie, toi, tu me dois le fait d'écrire, de pouvoir écrire librement. En fait, c'est ça, un double. Ça vous permet d'écrire librement. Souvent, en fait, on demande aux écrivains de... On leur demande d'être... comment dire, de ne pas mentir, de, vous voyez, ces choses-là, d'être sincère et tout ça. Mais en fait, tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Un écrivain, ce qui compte, c'est qu'il écrive des bons livres, c'est tout. Le reste n'a pas vraiment d'importance. Et en fait, un double, c'est pas, ça ne va pas vous permettre forcément d'écrire des bons livres, mais en fait, ça permet de prendre des distances par rapport à son autobiographie, par rapport à ce qui est exigé d'un écrivain. Ce qui est fou, c'est qu'en arrivant ici, je voulais trouver un livre de Salman Rushdie qui s'appelle Joseph Anton, qui est l'autobiographie de Salman Rushdie, mais dont le titre est Joseph Anton. Parce qu'en fait, Joseph Anton, c'est le nom que Salman Rushdie a utilisé pendant des années pour pouvoir avoir une... j'allais dire une vraie vie, mais ce n'est pas vraiment une vraie vie, parce que c'est un peu compliqué quand on a une fatwa sur le dos. En tout cas, pour pouvoir survivre. En fait, il a été rattrapé par la fiction, parce qu'il est devenu, d'une certaine manière, un personnage de fiction, parce que sa vie a été mise en danger par la fatwa de l'ayatollah Khomeini. Donc en fait, un écrivain, il est toujours en danger. C'est pas forcément la fatwa, c'est le pire qui puisse vous... Enfin, vous pouvez être aussi carrément exécuté, envoyé au goulag. Mais il y a plein de... Il peut vous arriver... En fait, dès qu'on écrit des livres, vous vous mettez en danger. Vous pouvez avoir toute votre famille qui décide de... Ça, ça peut être très pénible d'avoir une famille qui trouve que ce que vous écrivez n'est pas... conforme à ce qu'on attend de vous. J'ai une cousine que j'aime beaucoup, qui est une grande lectrice, mais c'est vrai que des fois, je suis un peu... là, elle est à Vienne, elle m'écrit, elle est très chouette, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que là, par exemple, elle me dit, voilà, j'ai trouvé un livre dans lequel tu es présent, elle me dit, je suis un peu poursuivie par toi, parce qu'en fait, elle voit plein de choses qui lui rappellent mes livres. Mais c'est, parfois, c'est un peu, pour moi, c'est un peu troublant parce que c'est une forme un peu d'intrusion dans votre, vous voyez, dans votre vie, dans votre liberté. On voudrait être complètement libre, on ne l'est pas toujours. Donc voilà, c'est une manière, j'ai été un peu long, mais c'est juste une manière d'être libre, en fait, d'avoir un double. Après, c'est aussi la stratégie de, vous savez, c'est la... En ce moment, je regarde la série Le Bureau des Légendes, mais que je n'avais jamais vue. Je ne sais pas pourquoi, c'est parce que je ne suis pas très série, que je trouve que ça prend beaucoup de temps quand vous écrivez des livres. Mais en fait, c'est vachement bien parce que un écrivain, et ça c'est Claudio Magris qui le dit, mais un écrivain, c'est comme un agent secret en fait. C'est-à-dire qu'en fait, voir un agent double, vie double, qui d'ailleurs commence la première fois où il apparaît, en fait, il est un peu... il n'est pas agent secret, mais il travaille dans une ambassade, dans un pays qui ressemble au pays balte. Et donc, il a quand même affaire à des agents secrets, à des histoires. Ce n'est pas un roman d'espionnage, ce serait peut-être plutôt une parodie de roman d'espionnage. Et c'est vrai qu'on a un rapport un peu comme ça aux agents secrets, aux agents doubles, quand on écrit des livres, voilà.
D'accord, alors le Samuel Vidoul dans Les Méditerranéennes, il enquête sur des secrets familiaux. Et aussi, du coup, ces secrets familiaux, ils sont étroitement entremêlé à l'histoire d'un pays, de l'Algérie.
Oui, mais c'est surtout que, voilà, je suis désolé parce que je sors juste de l'équipe, comme je suis juste en face, vous savez, souvent il y a un sas, vous prenez une heure de train, de voiture, et en fait là j'ai pas de sas, donc j'ai juste traversé, il y a 15 minutes en fait j'étais encore en train d'écrire un livre. Donc
c'est pas celui-là,
donc forcément c'est un peu... Mais pour revenir, parce que je retrouve un peu le fil de ma pensée, c'est que aussi... dans le Bureau des légendes, il dit ça à un moment qui est très juste, mais que toute personne qui s'intéresse à l'espionnage sait très bien, c'est qu'en fait, quand vous construisez votre légende, pour ne pas faire d'erreur, vous essayez toujours d'être le plus proche possible de votre vraie vie. C'est-à-dire que si vous avez des enfants, si vous avez deux enfants, par exemple, vous racontez que vous avez deux enfants. S'ils ont, si c'est un garçon, une fille, et qu'ils ont 6 et 13 ans, vous dites qu'ils ont 6 et 13 ans. Parce que sinon, vous risquez à un moment de vous tromper en disant qu'il y en a un qui a 7 ans et que vous avez deux garçons, alors que vous avez raconté que vous avez un garçon et une fille. Donc en fait, on invente un double, et ce double, il doit être proche de vous aussi, pour pouvoir... Bah, parce que ça permet aussi de... Moi, c'est vrai que je raconte des histoires qui sont de mon temps. C'est vrai que ce livre, il a eu, on en parlait l'autre fois, mais il a eu un prix qui est le prix du roman historique. Mais moi, j'estime que ce livre n'est pas vraiment un roman historique parce qu'il se passe quand même dans le passé, mais aussi dans le présent. Donc, en fait, c'est important, je pense, pour un écrivain aussi, de se situer dans son temps, même quand il parle du passé ou du futur. Quand on écrit de la science-fiction ou une dystopie, on parle toujours en fait du présent, de son propre temps.
Alors, j'avais envie, pour entrer dans le livre et puis dans notre échange, de partir sur un des personnages d'une galerie de femmes, essentiellement, Mamie Baya, qui est, et alors vous la définissez, je vous cite, par exemple comme ça, « L'accent pied-noir de Marthe Villalonga, les yeux bleu-vert et le profil altier de Simone Veil, la poigne et l'inflexibilité de Golda Meir. » Donc rien que ça. Hein. Et donc, voilà, on avait envie de faire entendre le texte et de vous proposer de lire un extrait des Méditerranéennes.
« Cela fait 20 ans déjà que la grand-mère n'est plus là pour allumer sa chandelle de Hanouka. Selon la tradition, c'était à elle, la veuve éternelle, elle, la récitante analphabète, elle, la juive errante, elle, la reine de Shabbat, Mamie Baya reine, sa majesté des beignets, qu'il revenait d'allumer le shamash, la première bougie, à l'aide de laquelle les 8 autres seraient ensuite allumées. Samuel la revoyait lever le bras vers le chandelier, saisir la chandelle perchée sur la branche du milieu et réciter la première prière. « Tu es source de bénédiction, éternel notre Dieu, souverain du monde, toi qui as opéré des miracles pour nos ancêtres, en ces jours-là, en cette période-ci. » Cela fait 20 ans déjà que la grand-mère n'est plus là pour bénir ses 6 enfants et ses 18 petits-enfants, pour leur passer ses gros doigts noueux dans les cheveux en récitant ses prières dans son sabir méditerranéen. Mamie Baya était très pieuse et elle avait hérité des superstitions de ses ancêtres. Dernière femme de la famille à parler couramment arabe ou judéo-arabe, elle n'avait jamais travaillé sinon pour faire des ménages ou tenir une conciergerie dans les beaux quartiers de Lyon. Samuel se sentait proche de cette grand-mère un peu exotique qui dormait dans sa chambre lorsqu'elle passait 2 mois à la maison et qu'il entendait ronfler la nuit et parfois même péter au lit. Mais en bonne méditerranéenne, elle se parfumait sans cesse d'eau de rose pour éloigner les mauvaises odeurs. Elle était restée noble et coquette malgré les points noirs piquetant son nez, malgré les rides et les fossettes, malgré le goitre et les joues flasques, malgré cet air de chien battu qu'il y avait dans ses yeux devenus gris depuis un jour sinistre de 1957, même lorsqu'elle s'efforçait de sourire. Ses mains sentaient toujours cette eau de fleurs d'oranger dont elle arrosait les gâteaux à l'aide d'un aspersoir en étain que ses cousins lui avaient rapporté d'un voyage au Maroc, de même qu'elle utilisait une aiguière tunisienne pour verser de l'eau dans le sillage de Samuel lorsqu'il partait en colo. Elle le faisait alors marcher 3 fois dans les flaques afin d'être bien certaine d'éloigner les djinns et la choukoumoun, comme elle appelait le diable et le mauvais œil. Mais l'aiguère et l'aspersoir étaient des objets rapportés de Tunis ou de Marrakech, des cadeaux qu'on lui avait offerts pour lui rappeler son pays perdu et déchiré par la guerre civile, alors que le chandelier à 9 branches qu'elle avait hérité de ses ancêtres était son chandelier, son Saint Graal et sa lampe d'Aladin. Malgré son poids de bronze, elle tenait à l'emporter partout, ne voulait jamais s'en séparer, et lorsqu'elle allait d'une maison à l'autre, en train ou en voiture, elle qui n'avait plus de domicile fixe depuis que la guerre et l'exil lui avaient ravi sa terre natale et son mari, elle l'emportait dans sa valise, comme elle l'avait emporté en avril 62 sur le bateau qui la rapatriait dans une patrie dont elle ignorait presque tout et où elle n'avait jamais mis les pieds. Chaque fois qu'elle allumait la bougie centrale, le premier jour de Hanouka, elle se penchait au-dessus de Samuel et lui disait « Tu sais, mon fils, cette petite flamme que tout concourait à éteindre, c'est la meilleure image que l'on puisse donner du destin d'Israël. »
Merci. Donc, effectivement, au départ des Méditerranéennes, un chandelier, une lampe d'Aladin, pour partir, finalement, dans un conte qui n'en est pas un, en fait.
Un conte oriental.
Un conte oriental. des fois, vous avez une formule en disant que ce livre est un chandelier de papier, en fait. Il s'articule autour de cette famille, d'une galerie de femmes, et à la recherche de la résolution d'une énigme.
Oui, c'est un chandelier de papier parce que la construction du livre imite la forme d'un chandelier, c'est-à-dire d'un chandelier à 9 branches en l'occurrence, puisqu'il s'agit du chandelier de Hanouka, qu'on appelle aussi une Hanoukia chez les Juifs, qu'on allume au moment de Hanouka une bougie chaque jour, et à chaque fois on fait une prière. Je l'ai conçu comme ça parce qu'en fait, donc les chapitres sont de plus en plus longs. Le premier chapitre est assez court, ça c'est le début du premier chapitre que je vous ai lu. Et puis on va jusqu'à un chapitre central qui est le plus long. Et ensuite on redescend, les chapitres sont de plus en plus courts vers le dernier. Donc pour moi ça construisait comme un chandelier. Et à chaque chapitre c'est une... On allume une bougie en fait. Donc chaque chapitre est comme une bougie, comme une branche de ce chandelier. Et chaque fois, c'est une femme différente qui prend la parole, qui récite une prière et qui raconte une histoire. Et qui raconte en fait une histoire de la famille à travers une date. J'ai choisi des dates qui me paraissaient à la fois symboliques de l'histoire de la France et de l'Algérie, mais aussi de l'histoire de cette famille, qui est une famille un peu imaginaire, qui est inspirée de ma propre famille.
Vous avez l'habitude de mettre dans vos personnages en fait des réflexions en fait sur ce qu'est la littérature, ce qu'est un livre, ce qu'est une histoire. Alors là aussi, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. On se demande si c'est le point de vue de Samuel Vidouble, d'Emmanuel Rubin, mais Mamie Baya dont on vient de parler, qui est analphabète, elle a des idées quand même très tranchées là-dessus. Et elle déclare, par exemple, « Il est inutile de vouloir concurrencer le réel, car la mémoire est toujours infidèle. Mieux vaut écrire des contes et des légendes que des récits calqués sur le vécu. » C'est quand même assez paradoxal pour, encore une fois, un roman qui a gagné le prix du roman historique et qui, de fait, quand même, est aussi un roman où on apprend, on se replonge dans des faits, dans des histoires réelles. Mais en même temps, voilà. Une fable, un conte, enfin il y a quelque chose qui est très...
Oui, mais en fait, tout est voué à devenir légende. En réalité, c'est très... le rapport à l'histoire, il est compliqué parce qu'on veut toujours être dans un rapport qui est de l'histoire, qui est dans un rapport de devoir, de mémoire. Vous savez, pour les Juifs, dont l'histoire est quand même très ancienne, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui révèle de la réalité et qu'est-ce qui est faux. C'est sûr que pour la Shoah, bon, on a la certitude que cela s'est déroulé, mais parce que c'est l'histoire récente. Pour ce qui est de, par exemple, l'Exode, là, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui m'avait intrigué, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais à Jérusalem. J'ai fait une résidence d'écriture, une de mes premières. C'était ma première résidence d'écriture à Jérusalem, à l'automne 2014. Et là-bas, j'ai découvert un livre de deux archéologues israéliens qui s'appelle La Bible dévoilée, parce que je me posais beaucoup de questions sur l'archéologie de Jérusalem, parce que quand vous êtes à Jérusalem, je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés à Jérusalem, il y a beaucoup de conflits sur l'archéologie. On ne sait pas, par exemple, il y a une cité qui a été découverte, qui a été mise à jour par les archéologues, qui s'appelle la cité du roi David, dont les Israéliens font toute une promotion, mais on a quand même des doutes réels sur l'authenticité de cette cité du roi David. Et on ne sait pas vraiment, il y a quand même des archéologues israéliens qui se sont un peu élevés contre cette mise en scène d'une cité du roi David qui aurait été retrouvée à un endroit et qui permet aux archéologues. C'est-à-dire que là, le présent et le passé comment dire, se culbute en permanence parce qu'en fait, cette cité, elle a permis, ces fouilles archéologiques, elles ont permis de mettre la main sur un village arabe qui s'appelle Silwan, qui est un village palestinien. Évidemment, ça pose plein de problèmes. Et donc, il y a des archéologues qui se sont un peu retirés du projet, qui ont dénoncé tout ça. Et par exemple, quand on lit la Bible dévoilée, ce livre de ces deux archéologues israéliens, on apprend que on ne sait pas si ce que raconte la Bible, c'est-à-dire que les Hébreux ont été esclaves de Pharaon, toute l'histoire de Moïse, on ne sait pas si c'est vrai. Il y a des choses, par exemple, on sait que le roi David a existé. Mais il y a beaucoup de choses qui sont sujettes à caution et qui sont prises dans l'histoire. Si vous lisez les manuels d'histoire israélien, tout ça ne fait aucun doute. C'est-à-dire que tout ça s'est passé, comme ça. À un moment, j'ironise un peu dans le livre parce qu'il y a un passage qui se passe en Israël. Mais moi, quand j'étais en Israël, j'avais l'impression que c'est non que. Que les faits qui étaient racontés dans la Bible s'étaient réellement produits et donc Israël pouvait justifier sa politique sur des faits qui s'étaient réellement produits, mais le contraire, c'est-à-dire qu'en fait, les choses telles qu'elles se produisaient aujourd'hui ressemblaient beaucoup à ce qui s'était passé. À ce qui s'était passé dans les temps reculés. Donc, j'ai toujours du, vous savez, ça, en fait, j'ai aussi beaucoup de mal avec ce qu'on appelle la littérature du réel. Je ne sais pas si vous avez entendu un peu cette expression. C'est une expression qui est beaucoup utilisée par certains écrivains qui disent qu'en fait, ils écrivent le réel, mais c'est totalement impossible. Il n'y a rien de plus impossible que d'écrire. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas écrire le réel. La littérature du réel est un oxymore, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'existe pas. Ce sont deux mots qu'on met ensemble. À partir du moment où vous faites de la littérature, vous êtes dans la fiction. Même si vous racontez même si vous prétendez raconter votre vie et faire de l'autobiographie, vous êtes forcément, il y a forcément de la fiction. Donc c'était aussi pour me prémunir de ce qui risquait de se produire avec lui, parce qu'en fait, souvent, et c'est pour ça que j'ai bien aimé ton introduction, mais c'est vrai que souvent, on est ramené, les écrivains sont ramenés en fait à leur autobiographie, c'est-à-dire que souvent, les gens pensent que ce que j'ai mis là-dedans, tout est vrai, mais en fait, Si on... Et d'ailleurs, souvent, c'est marrant parce que c'est la première question. Maintenant, aujourd'hui, c'est la première question que pose un éditeur, ce que je trouve hyper troublant. C'est-à-dire que là, j'ai rendu mon dernier manuscrit à mon éditeur. La première chose qu'il m'a dit, c'est qu'est-ce qui est vrai là-dedans. Et je trouve que c'est fou qu'un éditeur pose cette question. Enfin, c'est délirant. Il devrait me dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, mais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a vraiment strictement aucun intérêt. Et c'est très dangereux, en fait. Parce que si on va vers là, en fait, il n'y aura plus de fiction. Le jour où il n'y aura plus de fiction, il n'y aura plus d'art. Le jour où tout le monde ne fera que raconter sa vie et où les gens ne liront que des histoires de gens qui racontent leur vie, bah, c'est fini, moi j'arrête. Je dépose le stylo, c'est terminé. Donc si on me demande par exemple quelle est la part de fiction et de réalité dans ce livre, eh ben, c'est moitié-moitié. C'est le principe même d'un roman. Un roman est un mélange de fiction et de réalité. Et de même que c'est impossible, les auteurs qui vous disent que dans ce qu'ils écrivent, il n'y a que de la fiction, il faut se poser aussi beaucoup de questions. Parce qu'en fait, non, il n'y a jamais aussi que de la fiction. C'est forcément construit sur quelque chose de réel, qu'ils ont vécu, qu'ils ont observé, quelque chose contre quoi ils veulent réagir. C'est inévitable.
En même temps, on sent quand même votre... Je vous prends un revers, mais on sent votre... J'ai parlé de vos études en géographie, mais c'est présent. Par exemple, quand vous parlez de Constantine, on sent votre intérêt pour la géographie d'une ville. Et vous décrivez la ville avec une rigueur peut-être que d'autres écrivains n'auraient pas. Vous avez voyagé aussi, vous êtes allé sur place en Algérie pour écrire ce livre. Est-ce que ça a aussi changé l'écriture ?
Rigueur, c'est parce que vous n'êtes ni historien ni géographe. Parce que si vous l'étiez, vous me direz, mais Constantine, et c'est marrant parce que...
Vous avez menti, c'est ça, il n'y a pas tant de ponts que ça.
Ben voilà, je dis que Constantine est une ville avec 7 ponts suspendus. Allez vérifier, vous verrez que ce n'est pas tout à fait...
Et voilà, je me suis fait avoir.
Donc en fait...
on y croit,
non,
alors.
Pour moi, ça n'a... Ça, c'est vraiment... Ce n'est jamais une question que je me pose. C'est-à-dire que ce qui est génial, c'est que quand vous êtes... C'est vrai que moi, j'écris des romans qui sont, on va dire... Peut-être que là, Sabre et les Méditerranéens, il y a beaucoup d'histoires par rapport à la géographie. Mais disons que dans mes romans, il y a... Souvent plus de géographie que d'histoire. Et c'est vrai que je suis très attentif à la géographie. Ce qui est génial, quand vous êtes géographe, c'est que vous avez... Enfin, quand vous faites des romans un peu géographiques et que vous inspirez la géographie, vous avez rarement un géographe qui va vous écrire pour vous dire que vous racontez des salades. Alors que quand vous racontez des... Alors que quand vous faites des romans vraiment historiques, je peux vous dire que là, des lettres d'historiens qui vous écrivent pour vous dire que vous racontez des salades, vous en recevez beaucoup. Et donc c'est... Mais par exemple, à un moment, il y a une erreur à un moment donné dans le livre. Et c'est un lecteur qui me l'a fait remarquer. Et je pense que je le ferai corriger dans les rééditions. C'est qu'à un moment, je parle de la gare de la Part-Dieu en 1962. Et j'ai un lecteur qui m'a envoyé une photo de la Part-Dieu en 1962. Je peux vous dire que oui, il y a peu de chances que mes personnages arrivaient dans cette gare, parce que c'était vraiment une petite gare, comme un peu une gare de banlieue, quoi. C'était vraiment c'était quelque chose de très anecdotique. La grande gare à Lyon, c'était la gare de Perrache. Mais ça, je l'avais oublié, je l'ai su à un moment donné, mais puisque j'ai grandi, je suis né à Lyon, j'ai vécu à Lyon. Donc je l'ai su à un moment donné, mais c'est quelque chose que j'avais oublié. Et c'est vrai que... Et ça, c'est quelque chose que je corrigerai parce que c'est pas volontaire de ma part. Mais sinon, il y a des choses qui sont volontaires. Les ponts, c'est volontaire. Ouais, voilà.
C'était pour me déjuger, en fait, devant vous. on l'a pas dit, mais donc il y a une énigme. Oui, ça on l'a dit, mais donc le chandelier. La question c'est quelle est sa provenance. Est-ce que c'est un vulgaire chandelier parmi tant d'autres, ou est-ce qu'il a une histoire glorieuse. Et à travers cette histoire glorieuse, c'est la question de l'identité, des origines familiales et aussi de ces Juifs d'Algérie en fait et de leurs racines et de comment il racine aussi dans, dans l'époque actuelle.
Bah, dans un livre précédent donc, qui s'appelle Sabre, j'avais raconté l'histoire d'une famille inspirée de ma famille paternelle à travers un sabre. Et le titre de départ de ce livre, le titre de mon brouillon, était Chandelier. Puis bon, je me suis dit, ça allait être un peu trop systématique. Et puis je voulais insister davantage sur la géographie, sur l'histoire et puis sur ces femmes qui portent cette histoire et cette géographie. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé Les Méditerranéennes, qui est un titre qui a été trouvé par ma compagne, que je remercie. Mais c'est vrai qu'un objet comme un chandelier ou comme un sabre, c'est très pratique parce que ça vous permet de raconter énormément d'histoires. Parce que les objets nous survivent. Ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal à c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à accepter. Je le disais par exemple dans Sabre, c'est que nous sommes périssables, nous disparaissons, nous finissons notre vie sous terre, et les objets, c'est pas le cas. Alors vous aviez des dans le temps les princes, les seigneurs, tout ça se faisait, c'est arrivé, il y avait des grandes tombes où ils se faisaient enterrer avec tous leurs objets comme ça. C'était par exemple ce que faisaient les Khazars dans les steppes entre le Caucase et la Caspienne. Ils avaient des immenses tombes et ils étaient enterrés avec leurs chevaux, les harnais, tout l'harnachement des chevaux, toutes leurs sabres, c'était pas des sabres à l'époque, leurs épées, leurs armures, les chiens et compagnie. Ils n'avaient pas beaucoup d'objets. Nous, on est tellement environnés d'objets que si on voulait se faire enterrer avec tous nos objets, c'est pas des tombes qu'il nous faudrait, ce serait... Donc, mais ça diminue, ça va peut-être aussi avec la numérisation de tout, avec la dématérialisation aussi. Peut-être que l'époque où on a été comme ça, à ce point entouré d'objets, va diminuer, même si les spécialistes prédisent que le nombre d'écrans va encore augmenter et qu'on aura je ne sais combien d'écrans par personne. Mais je trouvais que un objet, ça permet de raconter plein d'histoires. Donc le sabre, bon, c'était un objet assez linéaire, il me permettait de traverser plusieurs siècles. Ce qui était très pratique, c'est qu'un sabre, ça n'évolue pas dans le temps, très peu. Aujourd'hui, il y a une cérémonie. J'ai un petit cousin qui a été, qui a eu le droit à la cérémonie de Saint-Cyr, donc il est Saint-Cyrien. Et donc, il y a toute une cérémonie officielle avec un adoubement par les officiers avec un sabre. Les sabres qui sont utilisés pour cette cérémonie officielle, ils n'ont pas évolué depuis le 19e siècle. Ce sont les mêmes objets. Donc en fait, il y avait un sabre qui disparaissait dans une famille et on pouvait partir à travers les siècles tout en remontant plus loin que le 18e siècle, puisque les sabres en fait apparaissent au 17e siècle. Il n'y a pas de sabre avant le 17e siècle. Le chandelier, c'est beaucoup plus ancien. Le chandelier est le plus vieil. Le chandelier, donc, on dit menorah en hébreu, c'est le plus vieux symbole de la religion juive. Donc, ça, c'était une discussion que j'avais eue avec une conservatrice d'un musée à Constantine, puisque je suis allé à Constantine pour écrire ce livre en janvier 2020. Je lui avais demandé quels sont les premiers... Comment on sait à quelle époque le judaïsme est arrivé en Algérie. Elle me disait, voilà, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des stèles sur lesquels des stèles, des tombes, sur lesquels on voit apparaître des menorahs, donc des chandeliers, plutôt le chandelier à sept branches, la menorah classique, traditionnelle, dès le deuxième ou le premier siècle avant Jésus-Christ. Donc, ça, c'était très pratique pour moi parce que ça me permettait vraiment, alors là, de balayer beaucoup plus de siècles. Donc, dans ce livre, on ne remonte pas forcément aussi loin dans le temps, mais on remonte au moins jusqu'au 19e siècle. Le livre commence après le prologue, qui est un dernier dîner de Hanouka qui se passe dans la banlieue lyonnaise. On commence en 1836 avec la première tentative de l'armée française de prendre Constantine. Mais j'évoque à plusieurs moments le temps de la Kaïna, puisque selon certaines femmes de la famille, le chandelier aurait appartenu à la Kaïna, qui était une reine berbère du 7e siècle de notre ère, qui se serait convertie, mais ça reste un peu la légende, on ne sait pas la réalité là-dessus, qui se serait convertie au judaïsme et qui aurait lutté contre l'envahisseur, à l'époque étant arabe et musulman.
C'est une des questions d'ailleurs qui est soulevée par le livre.
Oui, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Hein,
qui est juif, qui ne l'est pas.
L'avantage des objets aussi, c'est que il y a toujours des controverses sur les objets. Donc en fait, les gens ne sont pas d'accord sur... C'était marrant parce que quand j'avais... Alors là, le chandelier est totalement imaginaire. C'est un chandelier que j'ai inventé, qui est inspiré de différents chandeliers qu'il y a pu avoir dans la famille. C'est le seul objet que cette famille a ramené d'Algérie en 1962. Mais quand j'avais écrit Sabre, c'était génial parce qu'en fait, j'avais posé aucune question à la famille sur le sabre. C'était inspiré d'un sabre pour moi, très réel, qui était accroché dans la salle à manger de mes grands-parents, alors que mon grand-père était pas du tout, n'avait jamais été officier. Donc, je savais pas comment ce sabre avait atterri là. Sauf qu'il avait disparu à l'enterrement du grand-père. Et donc, quand le livre est paru, dans ma famille, personne ne savait que j'écrivais ce livre. Et puis, dans ma famille, mon frère aîné, il m'écrit, il me dit, mais il n'y a jamais eu de sabre dans la famille. Je lui dis, comment ça, il n'y a jamais eu de sabre. Alors, mon père, il dit, si, il y avait un sabre. Ma tante dit, oui, mais alors, j'appelle ma tante, je lui dis, mais alors, qu'est-ce qu'il est devenu ce sabre? Elle me dit, mais je ne sais pas du tout ce qu'on en a fait. Alors que c'était quand même pas si vieux, mon grand-père a quand même été enterré en 2000, je sais plus, ça doit être en 2006, quelque chose comme ça, ou 2006. Et c'est fou comment le livre est paru en 2020. Entre 2006 et 2020, plus personne ne savait, c'est quand même peu de temps, c'est 14 ans, plus personne dans la famille savait décrire le sabre, dire ce qu'était devenu le sabre, s'il y avait vraiment eu un sabre, et à qui il était appartenu, et comment il est arrivé dans cette famille. Donc c'est quand même dans cette salle à manger. Donc c'est quand même assez dingue, la destinée des objets.
Il y a donc aussi plein de d'évocations de l'histoire, hein, de l'Algérie, mais c'est l'une des choses qui me paraît saillante, c'est la question. Alors, vous parlez de l'origine des emmerdements, ce décret déclarant citoyens français les Israélites et indigènes de l'Algérie.
Le décret Crémieux.
Voilà. Mais qui est ensuite, en 40, sous Vichy.
Est abrogé.
C'est le mouvement inverse. Et de tout ce que ça implique, en fait, par rapport à cette communauté qui était là fort longtemps et parfois très intégrée. Et donc, il y a une réflexion sur le fait colonial, en fait, dans les méditerranéennes, sans que ça soit posé comme ça.
Oui, c'est impossible de parler de l'Algérie sans parler, évidemment, du fait colonial. Comme je vous dis, la première date du livre, c'est 1836-1837, c'est-à-dire 1836, c'est le premier assaut de l'armée française sur Constantine, qui va être un échec lamentable, une catastrophe que je raconte un peu dans le livre. Et ensuite, 1037, les Français vont parvenir à percer la brèche dans Constantine. Et puis après, il me fallait une deuxième date, puisque j'avance comme ça par saut de puce. Et puis parfois, c'est des grands écarts dans le temps. Et d'autres fois, c'est plus réduit. Et donc, la deuxième date que j'avais choisie, c'était 1870. Je raconte l'histoire. L'annonce du décret Crémieux. Sauf que bon, moi je fais pas un livre, ce livre n'est pas du tout un livre d'histoire, c'est un roman. Donc à chaque fois j'essaye de raconter les choses à travers une anecdote. 1836, je raconte à travers l'histoire d'une jeune fille qui est la fille d'un rabbin. J'avais trouvé qu'il y avait un rabbin dans la famille qui s'appelait le rabbin Maman, qui était né à la fin du 18e siècle. Et donc je raconte comment sa fille a caché au moment de la prise de Constantine, comment elle allait cacher le chandelier pour éviter que les Français s'en emparent, puisqu'à l'époque, dès qu'il y avait du bronze, c'était récupéré et on s'en servait pour faire des boulets de canon. Hein. Les nazis ont continué à faire ça, puisqu'ils avaient fondu toutes les statues de Paris. Pour en faire des munitions. Donc, toutes les statues que vous trouvez à Paris sont des faux. En 1870, les juifs d'Algérie vont devenir français grâce à un monsieur qui s'appelait Crémieux, Adolphe Crémieux, qui était de la région, puisque c'était un juif du comtat venaissin, et qui était ministre du gouvernement provisoire. Suite à la chute du Second Empire, qui va devenir ensuite la Troisième République. Moi, comme je ne raconte pas un livre d'histoire, je me suis dit, bah, comment je vais raconter ça, comment je vais faire passer la chose. Je me suis dit, bah, je vais raconter l'histoire d'une circoncision. On va circoncire un enfant, c'est un moment important dans la vie d'un juif et d'une famille juive. Et le problème, c'est que cet enfant, eh bien, il va être circoncis, pardon, au moment où on va apprendre l'annonce du décret Crémieux. Donc tout le monde se pose la question de peut-être je peux lire un peu cet extrait pour vous montrer un peu comment ça se passe. Il y a un crieur public, hein, qui arrive, qui raconte que voilà, à partir d'aujourd'hui, nous sommes tous français. Le moëll, c'est le circonciseur, celui qui circoncit. Suspend son geste et manque de faire tomber son scalpel. Le rabbin interrompt sa prière et son monocle se brise par terre. L'enfant braille comme s'il n'était pas d'accord avec la nouvelle. Que dis-tu, voix de Saint-Or? C'est écrit là dans le messager. Aucun de ces hommes ne sait lire à part le rabbin alsacien. On a fait venir un rabbin alsacien pour remettre un peu tous ces juifs barbares dans le droit chemin. Il s'approche du crieur public et lui arrache le journal des mains. Il lit à haute voix l'article que le crieur traduit aussitôt en arabe à ses 13 analphabètes éberlués. Là, c'est le texte du décret Crémieux. Donc, le texte du décret Crémieux dit: les Israélites indigènes des départements de l'Algérie sont déclarés citoyens français. Et puis je vous passe la suite, blablabla, blablabla, fait à Tours le 24 octobre 1870. Là-dessus, le crieur public et le rabbin nordique entonnent la Marseillaise devant l'assistance ébahie, tandis que le futur Shemuel, les quatre fers en l'air, le petit oiseau, c'était le mot employé par Déborah, toujours intact, crie de plus belle et que le moëll ne sait que faire de son scalpel. Toutes les femmes surgissent de la pièce unique où elles se sont cloîtrées, ne sachant si elles doivent se lamenter ou pousser des youyou à l'annonce de cette nouvelle. Les questions existentielles fusent aussitôt. C'est Shalom, le père de l'enfant, qui soulève le premier dilemme. Allons-nous circoncire un petit Israélite indigène ou un petit citoyen français? Le rabbin Simon Klein est consulté. Rabbi Avons-nous le droit de circoncire à un enfant français ? Bien sûr, répond le rabbin, puisque je suis moi-même né français, de confession juive et néanmoins circoncis. Mordecai Abitboul, alias Coupe-Trompette, c'est le nom du moëlle, demande s'il peut le prouver. Une réprobation générale soulève l'assistance. Les femmes rougissent et se voilent la face. « Oui, mais l'enfant est né il y a 8 jours », intervient le parrain, qui veut qu'on en finisse avec ce marmot braillant sur ses genoux et menaçant à tout instant de l'arroser. « Donc il n'est pas né français, il est né juif. »« Mais regardez, dit le crieur public en brandissant le journal, le décret a été signé il y a 8 jours. »« À quelle heure ?» demande l'oncle Isaac, qui était joaillier et faisait parfois office d'horloger. « L'heure n'est pas indiquée. Alors tant que nous ne savons pas l'heure, nous ne pouvons pas statuer. » Une voix suggère de suspendre la circoncision jusqu'à nouvel ordre et de consulter le préfet pour savoir si le nouveau décret autorise les indigènes à poursuivre leurs pratiques habituelles. Le rabbin Simon Klein s'agace et menace de quitter sans plus tarder cette demeure de taré. Coupe-Trompette brandit sa lame rouillée et menace de lui sabrer la braguette s'il ne prouve pas à tout ce petit monde que l'on peut être à la fois juif et français, autrement dit, faire son service militaire et manger des cuisses de grenouille tout en étant circoncis du prépuce. On décide que le rabbin ira montrer au moëlle dans les toilettes à la turque qu'il est à la fois cachère et bon français. Quelqu'un dans l'assistance demande à mi-voix si les cuisses de grenouille sont cachères. Une autre personne s'enquiert et les musulmans, quoi les musulmans ? Est-ce qu'ils vont devenir français comme nous ? Non, ils resteront des indigènes. Et vous croyez que notre voisin Mustapha Kadour va continuer à nous prêter son four gratis pour cuire la galette si nous devenons des citoyens français et que lui demeure indigène ? Donc voilà, c'était un moyen d'illustrer ce qui va se passer, c'est-à-dire que ça va quand même être la séparation entre des gens qui vivaient en cohabitation assez harmonieuse. Parce que cette histoire du four qu'on se prête pour cuire la galette, tout ça, c'est vrai. C'est-à-dire des musulmans et des juifs qui vivaient mélangés dans cette ville de Constantine, hein, où les juifs étaient quand même représentaient quand même un tiers de la population.
Vous décrivez bien dans la Méditerranée, justement, ces moments de... Où les gens sont mélangés, mais aussi vous arrêtez sur d'autres dates nettement plus problématiques, le pogrom du 5 août à Constantine, et puis son espèce de réplique inversée avec les massacres de Guelma en mai 45. Vous n'êtes pas vous décrire comme un écrivain engagé. Vous référez plutôt à Camus en disant que vous êtes un écrivain embarqué. C'est la différence. Vous expliquez peut-être ce regard justement sur le...
La différence entre un écrivain engagé, l'écrivain engagé c'est Sartre et l'écrivain embarqué c'est Camus. L'écrivain engagé, c'est beaucoup plus facile puisque Sartre a continué à faire tranquillement ses petites affaires pendant la période de l'occupation, c'est-à-dire écrire des livres, sans vraiment se mouiller. Alors que Camus a pris quand même beaucoup plus de risques à la même époque, malgré sa maladie, la tuberculose, et ne parlons pas de René Char, qui avait en horreur ces écrivains engagés, quand on sait que lui s'est battu dans les maquis de la résistance, juste à côté d'ici. Donc l'écrivain engagé, c'est une posture, une personne qui passe son temps à s'agiter dans le vide en disant qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, n'est pas possible, tout ça. Et l'écrivain embarqué, c'est simplement l'écrivain qui ressent, en fait, dans son corps, qui est traversé dans son corps par ce qui se passe et qui tente d'y réagir comme tout le monde, tout en restant un homme comme les autres, et ce que va finir par comprendre Sartre, puisque c'est un peu la fin des mots, c'est ça quand même. Au bout d'un moment, il avait quand même fini par le comprendre. Mais voilà, c'est la différence que je fais entre. Moi, je me considère comme embarqué dans mon époque. Après, c'est vrai que j'ai fait par exemple des livres avec autour de l'Ukraine, c'est un sujet qui me tient à cœur.
Oui, on peut les citer parce qu'ils sont un. Il y a la parution des nouvelles ukrainiennes chez Point, ouais. Dont les bénéfices sont reversés à Bibliothèque sans frontières, en poche, hein, Babelio. Ouais. Et puis aussi, en octobre dernier, vous avez dirigé et préfacé « Hommage à l'Ukraine », hein, un volume collectif.
Mais peut-être que le meilleur moyen pour répondre à la question, c'est que je peux vous lire trois mots du début de ça. Ça va vous montrer ce que c'est qu'un écrivain embarqué. Ça commence comme ça. « C'est toujours à l'est que ça me prend, au niveau des 6e et 7e nerfs intercostaux. Et puis la douleur irradie dans tout le côté est. » Au point de me clouer dans mon lit. Il y en a qui parlent de droite et de gauche. Moi, j'ai comme les atlas et les planisphères, un est et un ouest. La droite, c'est l'emplacement de l'est dans mon corps. Nous, les Européens, nous avons tous la carte du vieux continent, non seulement tatouée sur notre peau, mais gravée dans nos organes. Notre squelette se souvient. Il porte dans la géographie de ses os et de ses cartilages, de ses muscles et de ses tendons, de ses nerfs et de sa moelle épinière, la mémoire des traumas du passé. Alors chaque fois que l'Ukraine est attaquée, c'est là que ça commence, au niveau des 6e et 7e intercostaux, comme un poignard qu'on m'enfonce dans le dos. À 5h du matin, le 24 février 2022, je me suis réveillé avec cette douleur. J'ai péniblement tendu ma main vers mon téléphone, vers ma lampe de chevet, vers la radio, et avant même de presser le bouton « on », j'ai deviné ce qui se passait à 2700 km de mes bords de Loire, quelque part là-bas, sur les bords du Dniepr. J'ai deviné que Poutine avait lancé son offensive meurtrière et prémédité depuis longtemps quand j'ai senti que j'avais mal à l'Ukraine qui est en nous, Européens, comme d'autres ont mal aux dents ou à l'aine. Et c'est emprunté, mal à l'Ukraine, c'est emprunté mal à l'Algérie de Camus. Quand il disait qu'il avait mal à l'Algérie, c'est-à-dire qu'il était dans une situation qu'on lui a ensuite beaucoup reproché. Je ne vais pas parler de ce sujet qui est interminable sur le rapport de Camus à l'Algérie, mais c'est que ouais, bon, moi je connais bien l'Ukraine parce que j'ai travaillé en Ukraine, que j'ai traversé l'Ukraine à vélo sur la route du Danube. Tout le début du livre commence en Ukraine puisqu'on était parti d'Odessa. J'avais commencé une thèse sur Kiev, donc c'est un pays que je connais bien. J'ai écrit ces nouvelles ukrainiennes, c'était des nouvelles que j'avais rassemblées pendant plusieurs années et que j'ai décidé de publier quelques mois après, enfin j'ai décidé de les publier quand il y a eu l'attaque de Poutine, et puis bon bah le temps de faire le livre, on a été le plus rapide possible, mais voilà, c'est paru en août, en même temps que les Méditerranéennes. Tout le monde me disait mais comment tu vas faire, tu vas publier deux livres en même temps. Je leur ai dit mais ça c'est des conneries d'éditeur, ça m'intéresse pas. J'ai besoin de... Voilà, je veux qu'on parle de l'Ukraine, je veux que les gens entendent parler de l'Ukraine et je veux me sentir utile à travers les livres que j'écris. Et en fait, ça a quand même permis de rassembler 6 500 € qui ont été versés à une ONG. Donc des fois, ce n'est pas complètement inutile d'écrire des livres. Au même moment, j'ai essayé de rassembler des auteurs ukrainiens dans un livre qui est Hommage à l'Ukraine, voilà, avec 14 auteurs ukrainiens. Donc là, c'est un livre que j'ai dirigé, que j'ai co-traduit avec Irina Dmitrychine, qui est une traductrice de l'ukrainien, et que j'ai préfacé. Et ce livre est paru en même temps en Ukraine. En ukrainien, et j'espère, là à la fin du mois de juin, il y a un festival international du livre à Kiev, et j'espère y aller pour défendre le livre. Mais c'est vrai que jusque-là, je ne me suis pas rendu en Ukraine, parce que oui, je ne suis pas un écrivain engagé, je ne suis pas non plus reporter de guerre, c'est un terrain de guerre aujourd'hui, l'Ukraine. Et donc je me suis dit que je n'avais pas grand-chose à y faire, sauf si j'étais reporter de guerre. C'est pour ça que j'ai fait les choses comme ça, à distance, comme je pouvais le faire, mais tout en ayant une partie de de mon esprit qui était là-bas, quoi, de mon corps plutôt.
Alors, peut-être d'un point de vue géographique, je me méfie parce que je sais que je ne suis pas un géographe. Donc, votre sujet, le grand sujet, c'est l'Europe. Mais l'Europe, je l'ai dit en vous présentant, par ses frontières, pour faire le pont entre l'Ukraine et l'Algérie. L'Algérie, alors quand on dit ça, il faut faire attention, mais c'est l'Europe déjà. Enfin, en tout cas, c'est une entrée. Vous rappelez la guerre de 14 qui démarre là-bas. Que dire sur cette cohérence-là
entre l'Ukraine et l'Algérie, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi vous écrivez sur l'Ukraine et l'Algérie ? Il y a énormément de rapports. J'ai fait toute une conférence à l'université de Gand, en Belgique, pour expliquer justement les nombreux rapports entre l'Algérie et l'Ukraine. Alors, je ne vais pas tous vous les donner parce que c'est assez interminable, mais il y a notamment ce que tu dis, qui est en effet que ce sont deux pays qui sont aux portes de l'Europe. Et en fait, moi, tous mes livres dessinent une sorte de cartographie des confins de l'Europe, que ce soit sur la route du Danube, mais c'était le cas déjà dès mon premier roman, qui s'intitulait Alta Yalta, et donc qui se passait à Yalta, en Crimée, avant l'annexion de la Crimée par Poutine. Donc je suis rentré en littérature par là, par le biais des frontières de l'Europe, qui sont jamais certaines, qui peuvent toujours changer. On pense que les choses sont... Mais les frontières, elles se réveillent, elles bougent. Dans La ligne des glaces, qui était mon troisième roman, ça se passait dans un mélange de trois pays baltes. Ça, c'est le premier point commun entre l'Ukraine et l'Algérie. Ensuite, un deuxième point commun, je les prends un peu dans le désordre, mais c'est l'importance des communautés juives. Les juifs d'Ukraine et les juifs d'Algérie, c'était deux des plus grandes communautés juives du monde. C'est une deuxième chose. La troisième chose, c'est la colonisation. On a fini par le comprendre, mais en fait, l'Ukraine est un pays qui a été colonisé, par la Russie. Jusque-là, on n'arrivait pas. On ne mettait pas de mots là-dessus, parce qu'en fait, les colonisations de la Russie sont des colonisations, la Russie ayant peu de mer, à part l'océan glacial arctique, ça ne vous mène pas très loin en termes de colonisation. Si vous pouvez aller coloniser le Groenland, c'est un des rêves des Russes depuis longtemps. Bon, pour l'instant, ils n'y sont pas encore arrivés. Les Russes colonisent autour d'eux les terres qui sont autour. Donc ça a été longtemps l'Asie centrale, mais ça a été aussi bien sûr l'Ukraine, avec peut-être la différence par rapport à l'Algérie que l'Ukraine et Kiev, la ville de Kiev notamment, est le berceau à la fois de l'Ukraine et de la Russie. Donc là, ça rend les choses un peu plus compliquées, puisque c'est même à la fois Kiev et la Crimée, puisqu'en fait, en 988 de notre ère, c'est en Crimée, dans un lieu qui s'appelle Kersonès, et qui est aujourd'hui à Sébastopol, là où il y a la base militaire russe, qui a été baptisé le premier, celui qui va devenir Saint Vladimir, le Grand, qui va donner naissance à la fois à l'État russe et à l'État ukrainien, avec la Rousse de Kiev, puisqu'en fait c'est le premier grand prince de Kiev, que les Russes appellent Vladimir, comme Vladimir Poutine, que les Ukrainiens appellent Volodymyr, comme Volodymyr Zelensky, mais qui s'appelait en réalité Valdemar, parce que c'était un viking, tout simplement. C'était un viking qu'on appelait les Varegs, et qui étaient, ils étaient les Vikings en fait, ils remontaient avec leur drakkar la Dvina, qui s'appelle aussi Daugava, qui est un fleuve qui se jette dans la Baltique. Ensuite, ils mettaient les drakkar sur leur dos et avec ça, ils descendaient le Dniepr pour aller raser Constantinople, traverser la mer Noire, ils allaient raser Constantinople. Et un jour, ils ont trouvé qu'il y avait un endroit qui était sympa parce qu'il y avait des belles collines et tout ça, et c'est Kiev. Et ça va devenir leur capitale. Sauf qu'ensuite, il va y avoir les Tatars qui vont arriver qui vont occuper toute cette région. Et l'État russe, quand je dis russe, à l'époque, c'est l'État RUS, qui n'est ni russe ni ukrainien, qui va donner plus tard les deux, va être obligé de remonter plus au nord vers des villes comme Vladimir, Souzdal, Novgorod, Moscou. Et donc plus tard, c'est comme ça que va s'opérer le déplacement. Mais les deux ont raison. Quand les deux en fait disent que ils sont originaires, c'est vraiment un berceau partagé. Moi, c'est une ville que j'aime énormément pour ces raisons. Le principal drame de toute cette histoire, c'est que, il y a énormément de drames, mais tout d'abord toutes les victimes, évidemment civiles et militaires de cette guerre effroyable, mais il y a aussi le fait que Poutine a complètement détruit l'avenir de la langue russe en Ukraine, puisque cette ville où on parlait à la fois le russe et l'ukrainien. Plus tard, on n'y parlera que le russe. On n'y parlera que l'ukrainien. J'espère que ce ne sera pas le contraire. Ça dépend de ce qui se passe. Mais on n'y parlera plus que l'ukrainien parce que évidemment, là, les ponts sont, pour revenir au pont de Constantine, sont tranchés. Mais vous voyez, c'est une guerre en fait de décolonisation qui est menée avec 30 ans de retard. Parce qu'en fait, en 1991, quand l'URSS a éclaté en 1991, les Russes n'avaient pas les moyens d'engager des guerres de décolonisation à grande envergure, comme l'ont fait les Français ou les Portugais au moment de l'éclatement de l'Empire français ou de l'Empire portugais. Nous, on a tout de suite fait mener nos guerres, notre guerre, la principale guerre de décolonisation, en Algérie, entre 1954 et 1962. Les Portugais vont faire la guerre en Angola et au Mozambique en 1975. Les Russes, ils n'avaient pas les moyens à ce moment-là. C'était la merde en Russie, c'était le tout foutait le camp. En plus, ils avaient un ivrogne au pouvoir. Enfin, c'était vraiment, c'était pas possible. Donc, il y a toutes ces années qui se sont passées. Et Poutine attendait le moment idéal pour faire ça, pour mener cette guerre de décolonisation. Il avait commencé en 2014, le travail était inachevé, et tout d'un coup, il a pris l'idée en 2022 de parachever le travail, et c'est là qu'il s'est enfoncé dans ce qui se produit pour toute guerre de décolonisation, c'est que ça devient un bourbier complet. Les guerres de décolonisation, toujours pour la métropole, pour ce qui était la métropole quand c'était la France, ou pour ce qui se croyait encore la métropole, en ce qui concerne la Russie, et à 99% de chances de perdre et de se retrouver battu dans cette histoire.
Voilà.
Avec des conséquences ensuite irréversibles en Russie, évidemment, changement de pouvoir, changements de constitution, en espérant que tout ça amènera la démocratie en Russie et pas le chaos généralisé, quoi. Ce qui est aussi...
Voilà, de l'Algérie à l'Ukraine, de l'Ukraine à l'Algérie. On a fait des détours, on a tenu le rythme, on n'est pas essoufflé. Mais cette rencontre se termine. Emmanuel Ruben, merci. Et merci d'être venu aussi nombreux y assister.
Merci.